VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. 12 personnes sont mortes du choléra en 4 jours dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé aujourd'hui le ministre régional de la Santé. Cette nouvelle vague d'épidémie qui a débuté dimanche a contaminé 142 habitants dans le district de Moubi. Les équipes médicales n'ont pas encore découvert la cause de l'épidémie. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a mobilisé les autorités congolaises, l'OMS et de nombreuses organisations depuis le début de l'épidémie, alors qu'une vaccination ciblée a été lancée lundi à Mbandaka et que les aides affluent dans la région. La question de leur bonne répartition se pose cependant. Raïssa Girondin a joint Marie Zemengi, elle est journaliste à Mbandaka.
Par rapport à ça, il faut dire que c'est du jour le jour que les cas d'alerte se présentent. Comme aujourd'hui, là, les malades sont internés au centre de traitement Ebola. Il y avait 2 cas d'évasion, dont un malade était décédé hier. Et aujourd'hui encore, il y a eu un cas d'alerte, selon les informations qui sont en notre possession. Et tout ça, c'est dû, je peux dire, au manque de mobilisation concrète des ressources par les partenaires.
Vous pensez que donc, actuellement, un état d'urgence un peu plus mondial concernant l'économie doit être levé?
Ils sont vraiment nombreux sur terrain, mais à terme, des ressources comme ça, ils n'ont pas encore déployé. On vit de permettre aux acteurs de pérenniser les actions à travers toutes les zones de santé qui sont citées. Puisqu'ici, dans la ville de Mbandaka, il y a ces 3 zones de santé. La zone de santé de Mbandaka, de Wangata et de Bolenge. Alors, pour déployer les équipes dans tous ces terrains, il se pose un problème de ressources. Il faut la mobilité. Alors, jusqu'à ces jours, bien que la population à son niveau, avec des informations qui est là, se prend un peu en charge, elle pratique quelques règles d'hygiène qui lui sont données à travers les médias et autres interventions, mais se pose un problème de ressources. Et vous voyez même que les gens qui sont malades, ils ont un problème, ils n'ont pas à manger alors que les partenaires avaient promis à ce qu'ils vont supporter ces malades par rapport au kit social dans ces centres. Et la façon de choisir à remédier un problème et en créer un autre.
Est-ce que les gens ont peur les uns des autres, le fait qu'imaginons qu'il y a un cas qui est suspect dans une maison? Est-ce que les gens se parlent? Est-ce que les gens veulent toujours se serrer la main? Comment les habitants vraiment le vivent?
Par rapport à ça, la première semaine, il y avait un peu de résistance. Il n'y avait pas vraiment la bonne information, mais à cette période, l'information circule et tout le monde a compris. Et d'ailleurs, la plupart des gens, disons, je te dis, 90% de la population ne se serre plus la main. Et les gens en Mbandaka, tout le monde s'est fait promener avec son désinfectant pour désinfecter à tout le temps les mains. Et donc, c'est par rapport à la pratique, vraiment, les gens pratiquent les règles d'hygiène. L'épidémie, la maladie à virus Ebola ne concerne pas seulement les 3 zones de santé de Mbandaka. Et donc, il faut aller jusqu'à la toute dernière zone de santé qui était touchée. Et il y a même l'équipe qui est sur place là, elle est aussi confrontée à ces problèmes. Il n'y a pas de moyens, comment on peut travailler?
Marie Zemengi, journaliste à Mbandaka. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a été convoqué mardi au ministère des Affaires étrangères après avoir publié une déclaration dans laquelle il avait dénoncé des exactions dans les zones anglophones. La teneur des propos tenus par le ministre camerounais des Affaires étrangères, le jeune Mbella Mbella, n'a pas été révélée, mais la convocation de l'ambassadeur Peter Henry Ballerine est survenue 4 jours après qu'il eut publié un communiqué dans lequel il dénonçait notamment des assassinats ciblés commis par les forces de sécurité dans les régions anglophones du Cameroun. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a ignoré hier, aujourd'hui, une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente du diamant. La commission parlementaire des mines et de l'énergie voulait interroger M. Mugabe sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait la perte par son pays de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies étrangères. Depuis sa démission, l'ancien président, âgé de 94 ans, passe une retraite dorée dans sa luxueuse propriété de Blue Roof, une banlieue chic d'Harare. Au Mali, des djihadistes présumés ont tué 2 vieillards à Ténékou et une dizaine de personnes ont perdu la vie dans un affrontement dans la région de Ménaka. Parmi les victimes, un officier de la coalition MSA Gatia et un chef de guerre djihadiste. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La bataille dans le sable mouvant de Menaka se poursuit. C'est pour cela qu'il y a eu hier un affrontement à Inazulu, localité située à 30 km au sud-est de Menaka ville. Le bilan est de 3 morts du côté de la coalition MSA Gacha, dont un officier du MSA, Sidaham Ag Almata. 8 morts du côté de leurs ennemis, dont un important chef de la bande, Mokhtar Ag Libin. Il est connu comme l'auteur des dernières tueries des civils dans la localité de Takaten le 9 mai et de Taguet le 12 mai 2018, faisant une vingtaine de civils tués. À Tinenko, dans la région de Mopti, 2 vieillards ont été assassinés. L'incident s'est déroulé dans la commune de Diafrawe, plus précisément dans le village de Waka. Selon nos informations, les djihadistes ont assassiné les 2 vieillards qu'ils accusent d'être au service de l'État malien. Dans le même cercle de Tinenko, mais cette fois-ci dans la zone de Gangel, 2 jeunes bergers ont été tués près de leur campement. Certains d'entre eux sont portés disparus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'armée nationale libyenne, ANL, autoproclamée par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué aujourd'hui qu'elle resserrait les taux autour des djihadistes à Derna, faisant état d'une percée dans les banlieues de la ville. Le maréchal Haftar a lancé le 7 mai une offensive pour libérer Derna, ville côtière de 150 000 habitants située à 1000 km à l'est de Tripoli et sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismaël Alexandrani, a été condamné à 10 ans de prison par une cour militaire égyptienne. Alexandrani, arrêté en novembre 2015, est accusé de faire partie des frères musulmans, la confrérie panislamique déclarée organisation terroriste par l'Égypte en 2013, ainsi que d'avoir publié des secrets militaires. Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Des journalistes étrangers en route aujourd'hui pour couvrir la cérémonie de démantèlement du site nord-coréen d'essais nucléaires. Un geste de bonne volonté avant un sommet historique dont la tenue est cependant mise en doute par Donald Trump. Le Nord avait annoncé le mois dernier qu'il allait détruire le site de Panguiri dans le nord-est en faisant exploser des tunnels d'accès. Une annonce saluée par Washington et Séoul. Ce démantèlement est censé intervenir entre mercredi et vendredi en fonction de la météo. Montée de tensions entre le Venezuela et les États-Unis, le président Nicolas Maduro a annoncé hier l'expulsion du chargé d'affaires américain à Caracas. Il réagissait ainsi à la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions contre son pays après la réélection dimanche de M. Maduro. Le point, Eric Manirakiza.
J'ai déclaré persona non grata le chargé d'affaires des États-Unis, Todd Robinson, et j'annonce son départ dans les 48 heures, a déclaré hier le président socialiste dans un discours au Conseil national électoral. Nicolas Maduro a également ordonné l'expulsion de Brian Naranjo, le numéro 2 de la mission diplomatique américaine à Caracas, qu'il a accusé d'être le représentant de la CIA. Le président vénézuélien répondait au décret signé la veille par le président Donald Trump qui veut réduire la capacité de Caracas à vendre ses actifs. Dimanche, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, M. Maduro, âgé de 55 ans, a obtenu 68% des voix contre 21% à Henry Falcon, son principal adversaire. Ces résultats ont été qualifiés de farce par Washington. Le département d'État a annoncé hier que si les expulsions sont confirmées, les États-Unis vont prendre des mesures réciproques appropriées. Les deux pays n'ont plus d'ambassadeurs respectifs depuis 2010.
Un départ de l'armée iranienne de Syrie n'est pas à l'ordre du jour pour le régime de Damas, a indiqué aujourd'hui le vice-ministre syrien des Affaires étrangères après que Vladimir Poutine a évoqué un prochain retrait des forces. Lors d'une rencontre avec son allié syrien Bachar al-Assad, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que le début du processus politique en Syrie allait contribuer au retrait des forces armées étrangères du pays. Et puis, Salah Abdel Salam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre à Paris, ne sera pas réjugé après sa condamnation en Belgique à 20 ans de prison pour une fusillade avec des policiers. Son coprévenu, Sofiane Ayari, ayant comme lui décidé de ne pas faire appel, il n'y aura donc pas de second procès. Jean-Roger Billon à ce micro. Aux prochaines infos dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.